Alors, je vais peut-être commencer par un côté un peu nombriliste. Moi, je suis Silène Edgar, je suis principalement auteur de fiction. Mais comme j'ai plusieurs vies, j'ai aussi travaillé sur Harry Potter. Alors, avec un parcours un peu particulier, après être devenue prof de français, passer les concours, l'agrégation, etc., je me suis dit, ce qui m'éclate vraiment, c'est quand même la littérature de jeunesse, en écrire, la lire, l'étudier. Et j'aimerais beaucoup travailler sur J.K. Rowling avec une question qui est: comment se fait-il que cette œuvre ait embarqué autant de gens? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc, une question que beaucoup de gens se sont posées. Et j'ai mené un travail universitaire sur le sujet avec Anne Besson, qui est professeure d'université et qui s'intéresse particulièrement à la littérature de jeunesse, à la fantasy, à tout ce qui vous a amené ici aux aventuriers aujourd'hui. J'avais proposé pour cette conférence un thème qui était Harry Potter romantique du XXe siècle. En fait, je vois que le public est très varié, donc je me suis dit qu'on allait essayer de reprendre un petit peu les choses et d'explorer un petit peu les particularités de cette œuvre plutôt que de se concentrer sur un thème particulier qui ne va pas forcément intéresser tout le monde. C'est la première fois que je fais une conférence sur le sujet, donc ce sera peut-être par académique, mais de toute façon, vu le public très varié, ce sera peut-être mieux de ne pas faire trop académique. Mais je vais vous expliquer un petit peu moi ce que j'ai compris de la façon dont cette œuvre est construite, et puis comme ça après on aura un peu de temps pour discuter aussi, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de fans dans le public. Voilà. Alors, J.K. Rowling, elle a créé ce personnage de Harry Potter il y a déjà 20 ans, et ce qui est incroyable, c'est qu'autour de lui, elle a créé tout un univers. Donc autour de cette série de 7 volumes, hein, une étalogie qui a commencé en 97, elle a construit un monde et elle a converti le monde réel à son univers. Donc cette femme qui est née en 1965, elle est d'après la légende quelqu'un qui a commencé très modestement, qui écrivait dans un café, qui était au chômage, c'était compliqué, etc. Alors si on remet les choses dans l'ordre, c'est quand même quelqu'un qui est très cultivé, qui a fait des études de lettres, qui a pas mal voyagé, qui s'est intéressé à la philosophie. Mais sa particularité, c'est qu'elle a conçu son univers très jeune, puisque c'est vraiment une œuvre qu'elle a démarrée, alors que voilà, nous, on était encore pas forcément très malins, on faisait plutôt la fête. Elle était déjà en train de construire toute son histoire, et surtout, elle a construit son histoire de manière globale. Elle avait déjà idée, quand elle a écrit le tome 1, de ce qu'elle voulait faire dans l'ensemble de son œuvre. Et sa grande originalité, c'est qu'elle a imaginé faire grandir le personnage avec le lecteur. Ça, ça a été vraiment quelque chose de très nouveau. Les premiers lecteurs qui ont découvert Harry à 11 ans, comme Harry, ou 12 ans, ils ont pu suivre d'année en année Harry qui grandissait, qui changeait, qui devenait peu à peu un ado, et puis à un moment, un adulte. Alors les lecteurs d'aujourd'hui, les jeunes lecteurs d'aujourd'hui, ils peuvent tout lire d'un coup. C'est une expérience de lecture du coup différente, et souvent ils n'ont pas à attendre. Alors que nous, les premiers lecteurs, on a connu cette attente abominable de se dire le tome 6, quand est-ce qu'il va sortir? On le lisait des fois en anglais parce qu'on n'en pouvait plus d'attendre la traduction. C'était une expérience de lecture différente. Alors ce qui est étonnant, c'est que nous, bon, on a été pris dans le piège de cette parution au fur et à mesure, et puis les jeunes lecteurs, eux, ils continuent à lire 20 ans après. On va donner quelques chiffres. J.K. Rowling, elle a écrit ses 7 volumes. Voilà. Elle a ensuite fait 3 ouvrages complémentaires: Les Contes de Biddle le Bard, Le Manuel de Quidditch et le livre qui a servi à faire des animaux fantastiques. Elle a assisté la réalisation des 8 films autour de l'œuvre de Harry Potter. Elle a écrit un roman sociologique sur les adultes, Une place à prendre, des romans policiers, 3 romans qu'elle a écrits sous un pseudonyme, des romans qui ont été adaptés en série télé. Elle a supervisé ça et même produit certaines choses. Elle a créé Pottermore, qui est un site qui qui comporte de très nombreuses nouvelles, de très nombreux textes additionnels, ce qui est assez fantastique. Et là, c'est l'auteur qui parle, c'est qu'elle a créé cet univers, elle s'est fait des cahiers, hein, comme les autres auteurs, et puis après, elle a eu l'occasion, parce que les fans étaient au rendez-vous, de sortir ses cahiers et puis de raconter pourquoi elle avait fait ci, pourquoi elle avait fait ça. Ben, et ça a passionné plein de gens. Et pourquoi ça a passionné plein de gens? Parce que en 20 ans, à travers ces 8000 pages, elle a quand même convaincu les lecteurs du monde entier. Elle a été traduite en 80 langues. Et aujourd'hui, on en est à peu près à 500 millions d'exemplaires. 500 millions d'exemplaires, c'est juste délirant. C'est la meilleure vente de série de tous les temps. Et c'est un ouvrage jeunesse. Alors, je ne sais pas si tout le monde... parce que maintenant, on est habitué à ce succès de Harry Potter. Il faut se remettre un petit peu en arrière. Déjà, un livre qui plaise autant, qui soit traduit dans toutes les langues, qui soit vendu à des centaines de millions d'exemplaires, c'est fou. Et que ce soit un livre jeunesse, c'est encore plus dingue, parce qu'on considère toujours que la littérature jeunesse est un petit peu moins bien, c'est pour les enfants, bon voilà, c'est pas forcément ce qu'on considère comme étant au top. Et puis, en plus, c'est de la magie, c'est pas sérieux, il y a des dragons, des bestioles, des trucs. Et bien en fait, c'est voilà, la meilleure vente de série de tous les temps. Comme quoi finalement, il y a peut-être quand même autre chose derrière, et le fait que ce soit populaire à ce point nous fait dire que peut-être il faut aller creuser un petit peu et pas juste se dire que c'est un bouquin pour enfants et des dragons. Non, quand on convainc autant de monde, à travers autant de pays et de cultures, c'est quand même qu'il doit y avoir quelque chose. Parce que parler aux gens de sa culture, de son pays, c'est déjà fort. Mais alors, quand on est britannique, réussir à convaincre des enfants de l'autre côté de la Terre et des adultes, beaucoup d'adultes, de nous lire, c'est pas rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, hein? Et qu'est-ce qui continue à se passer, puisque là, elle continue de travailler avec les animaux fantastiques dont elle est la scénariste, hein, au cinéma. Tous les parents, les journalistes, les enseignants, ils se sont posé la question en voyant leurs enfants décorer ces espèces d'énormes pavés là. Quand on voit les enfants qui disent « Ah non, il est trop gros celui-là oui. » Ok, bon, ben voilà. Ça a fait un petit paquet. Comment ça se fait qu'elle ait attiré tous ces gens pendant 7 ans de vie de son héros et pendant 20 ans sans que les ventes fléchissent, sans que ça s'arrête jamais, au contraire, on en demande toujours plus. Je pense que elle fait quelque chose d'assez incroyable en termes de syncrétisme. Elle mélange énormément de choses qui ont toujours plu en termes de mythes, de contes, de références culturelles. Elle fait des blagues, elle recrée quasiment à l'identique notre monde en lui donnant, grâce au côté magique, un vernis nouveau. Et elle réécrit en fait notre univers de façon plaisante avec un jeu de miroir qui nous permet de le redécouvrir différemment. Et ce monde magique, il est si loin, si proche, hein. Il est très facile d'y entrer si on le voit en fait. Il suffit de passer un mur et on se retrouve dans une rue de marchands magiques. Il suffit de prendre la bonne voie de train et ça y est, on est parti pour Poudlard. Et on se retrouve chez les sorciers. Sorciers qui ne sont finalement pas si différents de nous. Je vous remets au tout début du tome 1. Harry est élevé par son oncle et sa tante, ses parents adoptifs, parents détestés, qui le traitent comme cendrillon, qui le font vivre dans un placard. De manière très caricaturale, en fait, ils le maltraitent et finalement, ils sont tellement caricaturaux, ils ressemblent tellement à Javotte et Anastasie, la belle-mère de Cendrillon, que finalement, ce sont eux qui ne sont pas normaux. Les moldus, finalement, ne sont pas les êtres normaux. Les êtres normaux, ce sont les sorciers. Et donc, quand Harry va se découvrir sorcier, il va pouvoir sortir un petit peu du conte et devenir un vrai petit garçon. Vrai petit garçon qui va grandir au fur et à mesure. Alors, cette œuvre donc, se définit par toutes ces références au conte, à la culture, au mythe, etc. On va chercher des petits exemples un petit peu de ça. Il y a des règles et des usages qui sont les mêmes que dans notre monde. on fête Noël, on fête Halloween, mais de manière beaucoup plus rigolote. Par exemple, pour la Saint-Valentin, on fait la Saint-Valentin chez Harry Potter, sauf qu'il y a des vrais petits cupidons. Alors les cupidons, ils sont assez marrants, parce que ils existent en vrai et puis ils sont pas très sympathiques. Alors, on a le mariage derrière. J'espère que vous m'entendez quand même. Donc ils sont marrants ces petits cupidons, ce sont des nains à l'air grincheux qui en fait agressent le destinataire et ils attrapent le sac de Harry et ils lui font vraiment un plaquage. Et donc elle s'amuse, elle transforme cette fête de Saint-Valentin qui n'est pas toujours rigolote en fait. Enfin, je ne sais pas si vous avez toujours vécu les Saint-Valentin rigolotes. Mais elle s'en amuse, elle nous fait rire avec ça et donc elle commence à changer un petit peu les choses. Elle fait des clins d'œil, par exemple pour Noël, si vous suivez les aventures de Harry au fur et à mesure, il y a toujours des cadeaux, puis il y a toujours des cadeaux qui reviennent, le sacro-saint pull que lui fait Madame Weasley, le cadeau tout pourri de son oncle Satan qui lui envoie un cure-dent ou un penny ou un timbre, des choses ridicules. Il y a des choses qu'on retrouve aussi comme le bal de fin d'année, on le retrouve dans la coupe de feu, donc le fameux bal qu'on voit dont on a l'habitude, comment ça va se passer. Alors chez les sorciers c'est un petit peu différent, mais en même temps c'est pareil, c'est si loin, si proche. Donc je crois qu'une des premières choses, voilà, ça va être que Caroline, elle ne nous dépayse pas tant que ça. Elle nous prend par la main pour nous faire réfléchir un petit peu à ce qu'on a l'habitude de voir, et puis elle le transforme et en fait quelque chose de rigolo. Alors après, elle en profite pour introduire quand même plein de choses en termes de mythes et de culture. Par exemple, elle va réutiliser dans la coupe de feu le mythe d'Oedipe. Alors on connaît pour la plupart, je pense, peut-être moins les petits, l'idée de le mythe d'Oedipe qui affronte le sphinx qui lui pose une énigme. Et puis ensuite il va rentrer dans la ville et alors il a tué son père, il va épouser sa mère, une histoire abominable, voilà. On retrouve Oedipe chez J.K. Rowling et en particulier quand il va rencontrer le sphinx, alors c'est dans la coupe de feu, le sphinx va lui poser une énigme aussi. Alors pas l'énigme qu'on connaît avec qui a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir. Elle invente une énigme, une charade quand même. Donc, pour faire une petite référence au mythe. D'abord, pense au premier de ce qu'il faut apprendre lorsque l'on ne sait rien à l'âge le plus tendre. Ensuite, dis-moi donc ce que fait par naissance celui qui au palais a élu résidence. Enfin, pour découvrir la dernière donnée, il suffit de l'apprendre à la fin de l'année. Tu connaîtras ainsi la créature immonde que tu n'embrasserais pour rien au monde. Alors, c'était quoi la réponse, vous vous rappelez? C'était l'araignée. Donc, il y a ce jeu. On s'amuse, on est lecteur, on rentre, on essaye de deviner, c'est rigolo, il y a la référence au mythe, et puis, grâce à l'énigme du sphinx, on rentre dans le labyrinthe. Et là, on va rentrer dans quelque chose qui se rapproche beaucoup plus du mythe de Dee, puisqu'on va retrouver Voldemort. Et Voldemort, lui, il est parricide, il a tué son père. Et c'est dans ce moment terrible, ce moment du tome 4 où Harry va basculer dans la partie la plus sombre de son histoire, hein, dans les tomes 1, 2, 3, on rigole bien, bon, on touche un peu du doigt le danger, mais on s'amuse quand même beaucoup. À partir du moment où il va rentrer dans le labyrinthe, et après le passage du sphinx, ça va être beaucoup moins drôle. Voldemort revient, et là Harry, il commence, et il entre aussi dans cette adolescence, où il va commencer à se poser beaucoup plus de questions sur lui, beaucoup plus de questions sur son père aussi, son père qui n'est peut-être pas si parfait. Et de manière, donc, il me semble très, très subtil, J.K. Rowling reprend le mythe qu'on connaît, elle le transforme légèrement, elle nous en amuse un peu, et puis elle repose la question, pas de manière aussi violente, parce que c'est pas Harry qui a tué le père, évidemment, mais Voldemort, son jumeau maléfique, le miroir noir de Harry. Et à partir de là, si on a cette référence-là, si on connaît Oedipe, on va pouvoir avancer dans l'histoire avec cette petite lumière, cette petite lecture, et se demander un petit peu quand est-ce que Harry va découvrir la vérité et trouver sa solution à lui. Alors des exemples comme ça de mythes, il y en a beaucoup dans Harry Potter. Il y a évidemment tous les mythes du Moyen-Âge, il y a plein de bestioles. Il y a la mandragore, par exemple, qui s'agit de faire pousser, qui est rigolote. Il y a tous les mythes gréco-latins avec des bestioles. On a les centaures, on a l'hippogriffe qui arrive, on a tous les prénoms et les noms des personnages qui font référence. On a aussi des références à la culture populaire. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais les chocogrenouilles. Vous connaissez les chocogrenouilles ? Non. Ben, les chocogrenouilles, elles viennent d'un sketch des Monty Python que les Britanniques aiment beaucoup, qu'ils regardent à Noël, dans lequel il y a des chocogrenouilles. Alors, c'est assez crado, parce qu'ils mangent des grenouilles en robe de chocolat. Et il y a aussi des nids de cafards. C'est là qu'on voit que J.K. Rowling fait référence vraiment à ce sketch particulier. Elle a mis aussi Calvin et Hobbes, par exemple. C'est dans le tome 2. À un moment, le professeur Lockhart fait un sort de transmogrifiable. Et alors, ceux qui connaissent bien Calvin et Hobbes, les Peggy Watterson, ils reconnaîtront le transmogriffeur qui permet de se transformer en ce qu'on veut. En fait, on rentre dans un carton, on se transforme. Donc, elle a bourré son texte de référence. Qu'on va reconnaître ou pas, par exemple, si vous ne connaissez pas pour les chocogrenouilles la référence au Monty Python, c'est pas grave, vous profitez quand même de la blague et puis vous avez quand même envie de manger des chocogrenouilles. Mais si vous connaissez, c'est d'autant plus rigolo, parce que du coup, vous avez envie de revoir le sketch et puis c'est amusant. Donc, elle met ces petits éléments-là partout, des fois avec un sens profond, comme pour le mythe d'Oedipe que je vous ai choisi comme exemple, et des fois juste pour le plaisir de les retrouver, pour le clin d'œil. Elle s'inspire beaucoup aussi de la littérature qu'elle a lue elle-même, la littérature pour enfants britannique. On va retrouver des références à Amandine Malabule, la petite sorcière. On va retrouver des références à l'univers de Diana Wynne Jones aussi. Et puis, elle était fan de Elizabeth Nesbit, qu'on retrouve aussi des éléments dans son texte.
On va changer de micro, je suis désolée. Ouais.
Merci.
Désolé.
Alors, tous ces éléments, des fois, il y a des gens qui ont dit « Ah, elle a copié tout le monde, elle n'a pas copié. » Elle s'est inspirée. Elle a réussi à faire le mix de tout ça. Ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est pas grave, encore une fois. Et puis, pour ceux qui connaissent et qui ont adoré Diana Wynne Jones, le château de Hurle quand ils étaient petits, ils ont ce plaisir de retrouver, encore une fois. Et ce plaisir de retrouver, à quoi il nous mène ? Il nous permet de trouver des indices et d'avancer dans la lecture en menant l'enquête avec Harry. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel chez elle. Les livres de Harry Potter, on les classe en fantasy parce qu'il y a des bestioles magiques. Mais en fait, ce sont des romans policiers. Non, ce sont des histoires où on mène l'enquête. Alors, je vais vous prendre comme exemple le prisonnier d'Azkaban. Alors, dans le prisonnier d'Azkaban, il y a plein d'enquêtes qui se mélangent. Alors, la première enquête, hein, celle qui fait le cœur du roman, c'est d'essayer de comprendre qui est le prisonnier d'Azkaban. De toute façon, ce n'est pas très compliqué. Là, il faut savoir ce qu'est la chambre des secrets. Là, on essaye voilà, on apprend plus sur l'ordre du phénix et d'y rentrer. Là, on voudrait savoir quelles sont les reliques de la mort. Elle nous donne les indices sur la couverture. Hein. On sait déjà ce qu'on va chercher. Donc, dans le prisonnier d'Azkaban, on cherche qui est le prisonnier d'Azkaban. Une fois qu'on sait qui est le prisonnier, on cherche pourquoi est-ce qu'il veut retrouver Harry Potter. Et une fois qu'on a avancé pourquoi il veut le retrouver, on va essayer de comprendre en fait quelle est la vraie raison de pourquoi il veut le retrouver, parce qu'on s'est trompé et qu'il faut continuer à mener l'enquête parce qu'en fait on a suivi une mauvaise piste. Non, alors attendez, je retrouve le truc. Hein. Ou si je vous le retrouve pas, c'est pas grave. Mais on va pas mener l'enquête seulement sur le prisonnier d'Azkaban, on va essayer de comprendre par exemple qui est le professeur Lupin. Alors, le professeur Lupin. On a des petits indices, hein. Par exemple, on a l'indice de son nom. Alors son nom, si jamais on est si on est fan de mythologie, et bien en fait Remus, ah tiens, ça me rappelle un truc, Remus, Romulus, la louve romaine, ah il y a peut-être quelque chose, bah oui la louve, évidemment Lupin. Lupin, c'est pas une référence à une espèce de petit truc jaune qu'on mangeait à l'apéro en fait. Pas du tout, évidemment c'est encore une référence au loup. Donc là, les petits éléments de culture dont je vous parlais tout à l'heure, ils deviennent signifiants. Ils donnent du sens au texte et ils nous permettent d'avancer un petit peu dans notre enquête. On a des indices. Par exemple, Hermione, qui est plus attentif que nous, hein, souvent elle est plus douée que nous lecteurs, ou que Harry, elle devine plus rapidement de quoi il s'agit. Elle voit qu'il n'est pas là certains jours, voilà, il y a un truc avec la lune. Donc on va au fur et à mesure suivre les personnages, pouvoir deviner, et puis au pire, si on devine pas, qu'est-ce qui se passe, c'est pas grave, Dumbledore nous expliquera. Voilà. À la fin de chaque volume, il y a Dumbledore qui explique. Qui dit, bon ben voilà, toi lecteur, toi Harry, et toi lecteur à travers Harry, si t'as pas bien compris de quoi en parler, ben, je vais te redonner des indices. Ce qui en général fait que le lecteur reprend le livre et le relit. Ce qui tombe bien pour ceux qui sont obligés d'attendre que le tome suivant sorte, c'est qu'on peut relire et relire encore le livre. Alors, ces repères, ces petites choses, c'est pas des hasards évidemment. Hein. Si on relit J.K. Rowling, on s'aperçoit, enfin si on lit ce qu'elle-même a dit de ses œuvres, on s'aperçoit que elle a énormément travaillé pour ça. Je retrouve des choses qu'elle a dit sur les noms, par exemple. Elle dit que pour choisir le nom de Dumbledore, voilà, elle dit j'aime les noms. Comme n'importe quel lecteur de mes livres a pu le voir clairement. Snape, par exemple, qui est le nom anglais de Rogue, est un nom de lieu en Bretagne. Dumbledore est un ancien terme hein, qui signifie bourdon, parce que c'est une personne qu'elle trouve musicale. Elle imagine Fredonard tout le temps. Hagrid, c'est un vieux nom anglais aussi. Et puis, c'est un nom de saint, un saint médiéval. D'ailleurs, elle est toute blanche. Gilderoy, elle l'a retrouvé, c'est un élégant bandit de grand chemin écossais. Ce qui correspond très bien à son personnage de dandy, le bandit en fait, qui invente toujours plein d'histoires. Et puis elle avait trouvé son nom de famille sur un monument aux morts. Voilà. Elle collectionne les noms et elle leur donne du sens. Ombrage. J'ai choisi avec soin les noms que j'ai donnés à Ombrage. Dolores signifie douleur et chagrin, des émotions qu'elle répand autour d'elle. Ombrage est un jeu de mots pour l'expression « prendre ombrage de quelque chose », c'est-à-dire s'offenser de quelque chose. Dolores s'offense de tout ce qui remet en cause sa vision limitée du monde. Et j'ai trouvé que son nom de famille illustrait parfaitement son étroitesse d'esprit et sa mesquinerie. Là, pour vous montrer sur ce petit travail sur les noms, mais on pourrait tous les passer en revue et on leur trouverait du sens à tous, que cette auteur a vraiment la volonté permanente de nous donner des indices, de nous faire réfléchir et de nous permettre de comprendre l'histoire petit à petit comme un enquêteur. Minerva McGonagall, elle est bien sympa cette vieille prof. McGonagall, elle est très sérieuse, elle est écossaise, elle fait des petits gâteaux écossais à Harry d'ailleurs de temps en temps. Et elle est Minerva, elle est la sagesse, évidemment. Mais Minerva, c'est aussi la déesse de la guerre. Et si on s'en rappelle bien, du coup, on n'est pas étonné quand, dans le tome 7, elle met en branle toutes les statues du château pour aller combattre les ennemis qui l'attaquent. Parce que Minerva, voilà, elle n'est pas que la sagesse, elle est aussi la guerrière casquée. Je ne vais pas vous faire toute la liste des noms, évidemment, mais par contre, je vous invite à aller les rechercher et à vous amuser avec ça. Je vais vous en donner un dernier qui, lui, n'a aucun sens. C'est Thomas. Parce que si vous lisez bien les volumes, vous verrez que les prénoms et les noms ne sont donnés qu'une fois. À part Tom. Tom, il est deux personnes à la fois. Il est le patron du bar, que voit Harry dès le début, au chaudron baveur. Et puis, il est aussi Tom Jeu du sort. C'est un nom très neutre, un nom qui n'a pas de sens. Ni pour l'auteur, ni d'ailleurs pour qui que ce soit. Alors que Harry, par exemple, c'est un prénom qu'elle aime beaucoup. Pourquoi Tom ? Parce que justement, il est neutre, il le déteste tellement qu'il va s'en choisir un autre. Et c'est dit clairement par Dumbledore qui lui dit « Mais pour moi, tu t'appelles toujours Tom » et Voldemort lui dit « Mais non, Tom, c'est le prénom de mon père, c'est un prénom que j'aime pas en fait. » Et il choisit un autre nom du coup. Donc jusqu'au bout, elle réfléchit à toutes ces petites choses-là pour nous permettre d'avancer. Et si vous vous rappelez, le moment où on comprend que Tom, jeu du sort, est aussi leur Voldemort, constitue une énigme aussi à part entière. Vous vous rappelez de ça? C'est un Trophédon. Un Trophédon, c'est quand on mélange... Ah non, ça c'était pour le Rizel. C'est le même principe. Dans le tome 1, avec le miroir du Rizel, on a compris que si on essayait de repérer comment les lettres sont mélangées, on va peut-être comprendre un petit peu de quoi il s'agit et progresser dans l'enquête. Si on lit Lusiade à l'envers, on comprend que c'est le miroir du désir. Et bien, dans le tome 2, elle nous refait le coup, puisqu'on a compris, hein, lecteur, vous avez compris comment on peut faire. Bon, et bien, je vais vous donner notre énigme. Et elle nous mélange les lettres pour tome Jeu du sort. Si on a compris, on devine que, comme Jeu du sort, il y a peut-être un truc derrière. En plus, Jeu du sort, bon, c'est la traduction française, en anglais, on a le même principe, il y a quand même un jeu à trouver. Et dans ce jeu, qu'est-ce qu'on retrouve? Le nom du méchant. Et du coup, et ben, on a gagné l'enquête. Si on n'a pas compris, évidemment, on nous expliquera à la fin. Voilà, comme d'habitude. Donc, ce jeu-là, ce jeu sur les noms, elle le transforme après en jeu sur les lettres, on va essayer de retrouver des choses. D'ailleurs, elle le fait jusqu'au bout. Hein. Dans, à la fin du tome 6, on se demande bien qui est Rab, R-A-B. Et on cherche dans tous les sens, etc., qui peut bien être ce R-A-B dont on a trouvé les initiales. Voilà. Encore une fois, les enquêteurs, les relecteurs, peut-être qu'ils vont faire des listes, et ça s'est fait, hein, les femmes, ils ont fait des listes pour essayer de retrouver qui était le RAB. Si on n'a pas la solution, on attend le tome 7 et qu'il nous la donne. Voilà. Donc il y a vraiment, à mon avis, là, quelque chose d'essentiel dans le succès d'Harry Potter, c'est qu'elle nous fait mener l'enquête sans arrêt, elle nous donne des clés, elle nous permet d'avancer, et en même temps, elle permet au lecteur qui n'a pas envie de réfléchir, de prendre plaisir quand même à cette lecture. Au-delà de ça, au-delà du plaisir, au-delà des petites blagues, etc., on a aussi une profondeur de champ à travers les personnages qui apparaît justement quand on se dit « bon, elle ne met rien au hasard, j'en ai la preuve avec tout ça ». Dans ce cas-là, qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de toutes les petites références que j'ai l'impression de voir quelque part? Par exemple, est-ce que elle n'aurait pas un discours sur la société? Est-ce qu'elle ne serait pas en train de nous parler, quand elle nous parle de Severus Snape en français, en anglais, qui donne Severus Snape, SS, comme Salazar Serpentard, les moldus qui n'ont pas le sang pur, la marque de la mort, les espèces de cagoules que portent les femmes de Voldemort. Est-ce qu'elle ne serait pas en train de nous parler de racisme, de nazisme, d'une partie de notre histoire très sombre qu'elle remet en forme et que finalement elle dénonce, mais sans la dire directement, ce qui est peut-être plus intéressant d'ailleurs, parce que le racisme n'est pas contre les personnes qui ont une autre couleur ou une autre religion. Le racisme, il est contre une de nos héroïnes préférées, il est contre Hermione. Hermione qui est brillante, Hermione qui est une de celles qu'on suit depuis le début, et qui est la pauvre, cette sang de bourbe. Donc, finalement, on peut pas refaire une lecture historique de Harry Potter et se demander ce qu'elle dénonce. Moi, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, quand je suis allée voir Les Animaux Fantastiques, je sais pas pour vous, mais du coup, j'ai tout de suite cherché ce qu'il pouvait y avoir comme discours sur la société. Et je me suis dit, bah, quand elle dit que les Américains, ils sont pas malins parce qu'ils ne permettent pas aux moldus et aux sorciers de se marier, est-ce qu'il n'y a pas aussi un discours sur la liberté qu'on peut avoir de se marier avec qui on veut, quelle que soit sa religion, quel que soit son sexe, quelle que soit sa culture? Elle ne le dit pas clairement, mais elle truffe le texte de petites réflexions, de petits messages comme ça qu'on peut lire si on en a envie. Et alors, pour vous prouver, j'ai un exemple quand même magistral. Vous vous rappelez de la tante Marge dans Le prisonnier d'Azkaban? La tante Marge avec son chien, ouais, et puis son imprimé là, sur son petit costume. Tante Marge, Margaret Thatcher, avec le chien, il a sa tête et tout. Bon, pour les Britanniques, la référence, elle a été évidente. Peut-être un petit peu moins pour nous, Français, mais les Britanniques, ils ont bien rigolé quand ils ont vu la tante Marge s'élever dans le ciel, tout gonflé par sa suffisance et sa méchanceté. Il y a un discours social aussi. Ron, il est pauvre. Alors qu'il est écrasé dans sa pauvreté d'Irlandais, de famille nombreuse qui vit dans un terrier, quand même c'est particulier, hein, par Malfoy, le riche, le noble, celui qui est de la haute et qui écrase les autres avec sa toute puissance, c'est pas pour rien. J.K. Rowling, elle est toujours du côté des gens qui sont un peu différents ou juste normaux. Et elle diffuse ses idées à travers ça. Elle m'a dit, alors je trouve ça intéressant sa façon de le résumer. Elle dit, bon, je vais pas le retrouver, je vais vous dire de tête. Voilà, je ne voulais vraiment pas faire de la morale, même si je pense que ce sont des livres moraux. Et ça, c'est peut-être aussi une des clés de son succès, c'est que le livre est porteur de messages, mais il ne fait pas la morale. Il n'y a pas de morale ici. De toute façon, elle est persuadée que ce n'est pas comme ça que ça marche. On le voit avec les professeurs. Qui sont les bons profs? Est-ce que ce sont ceux qui font copier les leçons, comme Dolores Umbridge, ou qui endorment leurs élèves avec les leçons d'histoire de la guerre des trolls de 1542? Absolument pas, on s'en fiche. Ceux qui fonctionnent, ce sont ceux qui font faire les exercices. C'est Rémus Lupin qui fait que les élèves affrontent directement leur peur. C'est Harry lui-même, quand il devient professeur, qui fait pratiquer les élèves. Elle est persuadée que c'est en creusant, en cherchant soi-même, en se mettant soi-même dans l'exercice, qu'on va apprendre. Et finalement, est-ce que c'est pas ce qu'elle fait avec nous, lecteurs? Est-ce que c'est pas en nous amenant, petit à petit, pour plaisir, à creuser, à chercher le double sens, qu'elle nous fait, elle nous a fait, nous, quand on était plus jeunes, elle fait encore les jeunes d'aujourd'hui grandir, se poser des questions et devenir des lecteurs actifs. Des lecteurs, et je termine pour avoir un peu de temps pour vous laisser réagir. Oh, parce que bon, encore du temps. Des lecteurs qui, se retrouvant sur le quai de la gare, vont pouvoir prendre d'autres trains et d'autres livres. C'est, je crois, quelque chose qui est vraiment particulier à son œuvre et qu'elle a voulu dès le début, puisqu'il est dit, elle le dit elle-même, qu'elle a écrit la dernière scène en même temps que son tome 1. Alors, elles ont dû bouger, hein, corriger quand même, parce qu'elle est sérieuse. Qu'est-ce qui se passe dans cette dernière scène? Que moi, je trouve très, très touchante. C'est une très belle métaphore, je trouve. Harry est devenu grand. Il accompagne son fils pour prendre le train de Poudlard, comme il l'a fait. La situation est un peu la même qu'avant, en fait. Où, certes, il a vaincu le grand méchant, mais en fait, il s'est aperçu dans le tome 7 que des grands méchants, il y en avait eu plein. Il y a toute une généalogie de grands méchants. D'ailleurs, là, dans les animaux fantastiques, on s'attaque à un autre méchant avec une de balle. En fait, il y en a plein de méchants. On en tue un, puis il y en a un autre qui réapparaît. Hein. Voilà, comme à toutes les histoires. Donc, il a grandi, Harry. Il est sorti du château dans tome 7. Il s'est aperçu tout ça. Il a compris que, bon, Voldemort était l'ennemi à abattre maintenant, mais qu'il y en aurait sans doute d'autres. C'est pas pour rien qu'il est devenu Aurore, qui est un peu policier des sorciers. S'il n'y avait plus de danger, pourquoi est-ce qu'il est devenu Aurore? Ça ne sert plus à rien. Or, il reste actif et prêt à combattre au besoin. La situation est la même, pourquoi? Parce qu'il accompagne son fils petit, qui n'est pas forcément bien dans sa peau comme il a pu l'être, qui est enfant de personnes célèbres, mais qui lui-même n'a rien de célèbre comme il a pu être, qui a tout à construire, qui va devoir remettre en cause son père à un moment, comme Harry a dû le faire. Sur le quai, qui est-ce qu'il trouve? Le fils de Malfoy. Un fils aussi, du même âge, fils unique en plus, Scorpius, c'est rigolo, ça a donné lieu à une pièce, hein, cette particularité. Il voit qui? Le fils de Rémus, qui est là, qui n'a plus de parents et dont il est le parrain, un petit peu comme Sirius était son parrain quand lui-même n'avait plus ses parents. Et c'est reparti, ils vont prendre le train, ils vont partir pour deux histoires, et lui il reste sur le quai. Mais est-ce qu'il reste vraiment sur le quai? Rappelez-vous justement dans le tome 7, quand il rencontre Dumbledore au moment où il va jusqu'au bout, où il meurt, parce que Harry meurt et revient. Dumbledore lui dit, mais t'es pas obligé de revenir. Tu veux, tu prends un autre train. Vous vous rappelez de ce moment-là? Il lui dit aussi, ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Et il lui apprend là, et lui donne là la réponse un petit peu à toute cette série, je pense. Le fait qu'on est ce qu'on fait, on est quand on agit, et donc quand on devient un lecteur actif et qu'on reste sur le quai comme ça, libre à nous de prendre un autre train, ou de relire le même, pour retrouver d'autres réponses. En tout cas, on est devenu un lecteur actif. On est devenu, comme Harry, quelqu'un qui décide de relire les choses de manière intelligente, de manière éclairée, et qui se dit que peut-être on peut lire entre les lignes. Il me semble que c'est vraiment là, pour moi, après, justement, je vous entends, je pense que c'est là la clé du succès de Harry Potter. C'est que c'est un livre ouvert, c'est un livre qu'on peut relire, c'est un livre dont on peut partir, c'est un livre qui fait grandir, qui cultive, et qui en même temps nous fait lire, nous amuse sans arrêt. Alors du coup, je ne sais pas si vous avez envie de réagir, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez envie de revenir sur certaines choses. Ouais, vas-y. Oui. Alors, Harry Potter et l'enfant maudit, c'est ce qui t'intéresse. Alors, ce qui est très particulier avec Harry Potter et l'enfant maudit, c'est que c'est pas J.K. Rowling qui l'a écrit. C'est une des particularités de cet auteur, c'est que comme ses fans ont suivi vraiment tout ce qu'elle a fait et ont inventé des histoires pour poursuivre son univers, parce qu'ils étaient un peu déçus que les livres prennent autant de temps à sortir, peut-être, elle les a encouragés. Et elle les a tellement encouragés qu'elle a même été jusqu'à soutenir la création de cette pièce qui n'est pas son écriture à elle. Et on le voit à quoi, maintenant que je vous ai donné les réponses, il n'y a pas de jeu sur les noms, il n'y a pas de nouveaux objets, de nouveaux animaux, il n'y a pas toutes ces clés qu'on trouve dans les autres albums, dans les autres romans d'Harry Potter. Pour moi, la pièce est évidente, il n'y a absolument pas tout ce qui fait la saveur de l'écriture de J.K. Rowling, c'est-à-dire un roman à clé, un roman avec plein de surprises, de trappes à soulever, alors que dans les animaux fantastiques, de nouveau, on retrouve cet univers complètement dingue, avec plein de bestioles qui courent partout, des doubles sens, des personnages étranges, ils ont des noms particuliers, les personnages des animaux fantastiques. Norbert Dragonneau, il est quand même particulier, et puis tous. Là, on retrouve J.K. Rowling et son écriture. Donc, moi, je trouve ça très intéressant, cette idée d'avoir fait faire cette pièce. Mais c'est pas du J.K. Rowling. Elle a juste mis son nom sur la couverture. Ouais. C'est ce que tu crois aussi? Ça, c'est quelque chose qui est particulier chez elle. C'est que elle est devenue très riche avec tout ça. Donc elle a été beaucoup attaquée sur le fait aussi qu'elle faisait du commerce avec tout ça. Bon, en même temps, si vous aviez inventé des détraqueurs et tous ces trucs incroyables, ce serait normal aussi que vous profitiez un petit peu des retombées économiques. Elle vit dans le monde dans lequel on est, elle le présente bien, il me semble, dans Les Animaux Fantastiques. Si vous l'avez vu, à la fin, le boulanger fait des pâtisseries et des petits pains à l'effigie des monstres qu'il a vus. Moi, j'y lis justement une réponse de Rowling qui dit « Attendez, c'est moi qui les ai inventés. Si ça m'amuse de faire des petits pains et des pâtisseries à l'effigie de mes personnages et de les vendre, quand même, c'est moi qui les ai inventés. » Je pense qu'il y a un peu de ce côté-là dans cette scène-là où finalement, bien sûr, elle bénéficie comme entièrement de ce qu'elle a créé. Et puis après tout, pourquoi pas. Évidemment, on va aller à sa place, moi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres... Non ? Est-ce que vous en avez marre ou est-ce que vous voulez que je parle un petit peu des personnages dans le petit temps qui nous reste ? Ouais, on continue un petit peu. C'est quelque chose que j'ai trouvé particulier aussi dans cette lecture. Si vous regardez les personnages, il y a certains critiques qui ont dit qu'en fait, elles sacrifiaient les personnages à l'action. Il y a énormément de personnages dans les 7 volumes. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas du tout qu'elle sacrifie les personnages. Au contraire, elle commence l'histoire avec un personnage principal qui est Harry, auquel elle adjoint deux adjuvants principaux, Ron et Hermione. Et Ron et Hermione prenant une importance de plus en plus grande dans les 4 premiers tomes, ils deviennent le même personnage principal, ils deviennent le même support d'identification. Hermione, beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons si on peut s'identifier à elle. Elle est la première de la classe, certes, dans un premier temps, dans le premier volume, mais elle devient aussi le porte-drapeau des mal-aimés. elle défend les elfes, elle défend les géants, elle est née moldue. Elle devient support d'identification. Ron, au début, c'est voilà, le meilleur copain du héros, quoi. Il est un petit peu bizarre, un petit peu ridicule. Et puis finalement, de la même façon, il va devenir support d'identification parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui se reconnaissent aussi dans ce grand dégain-danger qui n'est pas toujours à l'aise, qui est toujours un peu le second, le meilleur ami. Et il devient lui aussi personnage principal. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle en fait d'autres, des adjuvants. Elle recrée un trio avec Jimmy, Neville et Luna, à partir du tome 5, qui vont servir d'adjuvants et qui vont assister nos trois héros. À partir du tome 4, on ne peut plus les séparer tous les trois. Alors qu'ils se discutaient pas mal, on va continuer à se discuter, à se déchirer, hein, les trois. Mais ils forment le trio de héros. Les personnages se répondent comme en miroir. Si vous regardez, tout à l'heure je vous ai parlé des pères, la façon dont Harry va mettre en cause le père. Harry a plusieurs pères dans cette histoire. Il y a son père mort, bon, c'est pratique hein, d'avoir un père mort parce qu'il n'est jamais en désaccord avec nous, puis en même temps c'est super embêtant parce que justement on ne peut jamais lui dire ce qu'on pense. Alors à qui on va le dire ? On va le dire à Hagrid. Qui le sauve, qui le ramène tout petit dans sa nouvelle maison, qui va assez paternaliste avec lui, le chouchouter un petit peu, et puis en même temps, bon, qui n'est pas toujours très sérieux. On peut reprocher des choses à Dumbledore aussi. Dumbledore, le sage, le vieux papa, qui sait tout, et qui en même temps ne comprend pas que Harry grandit. On peut aussi reprocher des choses à son parrain, un père parfait, Sirius. À partir du moment où il se rend compte que c'est son parrain, il est parfait, il est aventureux, il représente un peu l'idéal, il ressemble à son père, et puis finalement, il est peut-être trop aventureux, peut-être qu'il est aigri, peut-être qu'il est abîmé par la vie qu'il a eue. Il n'est peut-être pas si parfait que ça. Et le mauvais père, Rogue, qui est un peu le père aussi, bon, surtout qu'il était très amoureux de la mère quand même. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il lui apprend beaucoup de choses, hein. Il est son professeur particulier. Et finalement, il reconnaît cette paternité, puisqu'il va même donner ce prénom à son fils. Donc il y a beaucoup de pères, en fait, dans cette histoire. Et cette multitude de personnages est très intéressante, au contraire, pour avoir les différentes facettes. Et pour éviter d'être dans un banal jeu d'opposition papa-enfant. Ça me semble beaucoup plus riche. De la même façon, les mamans, il y en a plein des mamans dans cette histoire. En général, ce sont des mères sacrificielles. Elles meurent pour leurs enfants. Ou elles sont prêtes à mourir pour leurs enfants. Minerva est tout à fait prête à mourir pour ses élèves. Madame Weasley, quand elle combat, alors c'est la gentille maman, elle fait des gâteaux et tout, elle est rigolote. Non, parce que quand elle sort sa baguette pour se battre, pour sauver sa fille Ginny, avec des gros mots en plus, c'est très fort ce moment-là. Elle se retourne vers Bellatrix Lestrange, elle dit « Pas ma fille !» avec un très gros mot que tu n'as pas dans les petites oreilles. Et elle gagne. Qui tue Bellatrix ? Madame Weasley, la gentille maman ? C'est pas n'importe qui, en fait, celle-là. Et puis, il y a toutes celles qui disparaissent aussi. Qui disparaissent dans la folie, comme la mère de Neville Longbottom, par exemple. Ou qui disparaissent avant même qu'on les connaisse, comme la mère de Luna Lovegood. Elles sont très nombreuses, ces mères. Et elles apportent toutes quelque chose à la série, dans le sens où, du coup, on peut interroger ces différents côtés de la mère, et là encore, sans être dans cette simplicité du rapport mère-enfant. Même Pétunia est une drôle de maman, quand même, qui, tout en détestant son neveu insupportable, le protège jusqu'au bout. Les frères. Il y en a plein des frères aussi. C'est génial. Il y a Dudley, le frère abominable, doublé dans le monde magique par Drago. D'ailleurs, ils sont pareils. Hein. Dudley, il a deux gros potes. Et Drago, c'est pareil, il a deux gros potes. Donc, on n'arrive pas trop à différencier. Alors, au cinéma, on les différencie, mais dans les livres, on les différencie jamais. On ne sait jamais qui est Crabbe ou qui est Goyle. Hein. À part qu'il a écrit Crabbe, il a écrit Goyle. En fait, ils sont pareils. Drago, le vilain, qui a tout pour lui, comme Dudley. Mais avec Drago, il n'y a jamais cette complicité qui finit par y avoir avec Dudley. Et là, ils se différencient, ils deviennent des frères différents. Là où je veux vous emmener, c'est sur cette idée qu'en créant tous ces personnages, au contraire d'un appauvrissement, je pense qu'elle crée une grande richesse. Elle permet au lecteur de reposer sans arrêt la question, de voir les nuances, de se représenter les différents choix, les différentes possibilités qu'on a dans la vie, dans les relations qu'on peut avoir dans la famille. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir tout simplement une histoire de famille avec un papa, un maman, une maman, un héros et puis un petit frère ou un grand frère. C'est tout de suite beaucoup plus riche. Et j'ai terminé avec sans doute moi la pléiade des personnages qui me plaisent le plus. Je vous ai dit au tout début que J.K. Rowling avait travaillé sur la philosophie. Elle est sa quatrième relique. Vous savez, ça, c'est des points, cette idée qu'on est ce qu'on fait. Ça correspond bien à ce que Dumbledore dit à Harry d'ailleurs. Ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes vraiment. Et je crois que c'est là qu'on retrouve un des plus beaux exemples de cette galerie de personnages qui a du sens avec Sirius, Regulus, Rogue et Peter Pettigrew. Ces quatre personnages se ressemblent dans un sens, c'est qu'ils sont tous du mauvais côté. Ils naissent tous du mauvais côté. Sirius, c'est un black. Mais dès l'enfance, il choisit de partir, il choisit de rejoindre les Potter, il change de bord, il est ce qu'il fait, il devient un bon, un gentil. Son petit frère Regulus, ça met du temps. Lui, par contre, c'est un black assez longtemps. Il devient même un partisan de Voldemort. Et puis, il réagit. Comme il réagit trop tard, il va devoir se sacrifier. Mais n'empêche qu'il réagit et qu'il sauve quand même. Il réussit à récupérer un Horcrux qui va pouvoir être détruit. Donc il participe à la chute de Voldemort. Rogue, qui a été vraiment sceptique quand même pendant très longtemps, tout vient par lui. Finalement, sans lui, on s'en sort pas dans cette histoire. Donc là encore, dans ce qu'il fait, il permet de se débarrasser de juste ce qu'il est. Il devient autre chose que ce qu'il est. Il devient ce qu'il fait. Quelqu'un qui finalement n'est pas si mauvais. Et on a Peter Pettigrew. Lui, c'est l'exemple du salaud sartrien. Hein. C'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. De toute façon, j'étais plus nul, j'étais plus faible, les autres ils étaient plus forts que moi, et je pouvais rien faire de toute façon. Alors je trahis tout ce que je peux, je trahis mes amis, je trahis Harry, je trahis tout le monde, de toute façon, je peux pas faire autrement. Le sceptique, quoi. Le type qui dit je peux pas faire autrement qu'être ce que je suis. Mais si, la preuve, Sirius, Regulus, Rogue, on peut faire autrement. Et au dernier moment, il va quand même réagir. Bon, comme il réagit vraiment très tard, il en meurt très très vite. Mais n'empêche que, il y a quand même à la fin un acte, quelque chose qui fait que quand Harry a eu pitié de lui, quand il a dit « je veux pas qu'on le tue cet homme-là », il a eu raison, parce que Harry, jusqu'au bout, il est persuadé que on est ce qu'on fait. Et tant qu'on est vivant, on peut encore faire quelque chose. Et on peut encore sauver quelqu'un d'autre. Et on peut encore, même si on a fait des saletés toute sa vie, au dernier moment, avoir le geste qui va permettre de sauver la situation. Je crois qu'il y a là, encore une fois, un de ces sens cachés que J.K. Rowling nous offre dans ses livres, une réflexion qu'on peut trouver à la deuxième, à la troisième lecture, ou peut-être un peu quand on est un peu plus grand. Mais voilà, je vous invite, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller regarder un petit peu, je vous invite à relire, à chercher tout ça. Il me semble que là, on a vraiment une auteure qui a construit comme une cathédrale cette œuvre pour nous y cacher une somme de secrets, de blagues, de réflexions philosophiques, mais aussi de petits clins d'œil, pour plaisir, pour réfléchir, pour avancer, et puis après pour aller vers d'autres livres. Voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie.